6h45, vous écoutez France Culture et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Émilie Chaudet.
Bonjour Jacques Munier, ravi de vous retrouver.
Moi aussi. Donc au sommaire aujourd'hui, le scrutin de dimanche en RDC, en République démocratique du Congo.
Et oui, bonjour à tous. Oui, RDC, le scrutin de toutes les incertitudes, c'est le mot qui a caractérisé ces deux dernières années dans le pays et il reste plus que jamais valable ce mot aujourd'hui, au lendemain de ce scrutin très longuement attendu dans le plus grand pays d'Afrique subsaharienne qu'est la République démocratique du Congo. Élections générales, c'est-à-dire présidentielles, législatives et provinciales, avec une vingtaine de candidats en lice pour lesquels 40 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes hier. Élections qui étaient depuis 2 ans donc constamment reportées par les autorités, y compris ce week-end dans 2 zones dites à risque, nous y reviendrons. Le président sortant Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré, qui était depuis 17 ans à la tête du pouvoir et aurait dû le quitter en 2016, a pratiqué une stratégie dite de glissement de ce scrutin, entretenir un climat d'insécurité, d'instabilité, reporter les élections et donc l'abandon du pouvoir et par là même se laisser le temps de préparer sa propre succession. Joseph Kabila a finalement choisi de se retirer de la course en août dernier et a choisi un candidat proche de lui, l'ancien ministre Emmanuel Ramazani Shadary, qui bien avant la fermeture des bureaux de vote hier, et bien que beaucoup d'électeurs n'aient pas encore pu voter, n'a pas hésité à clamer d'ores et déjà sa victoire. Emmanuel Ramazani Shadary qui affrontait lors de ce scrutin 2 candidats d'opposition. Ces 2 candidats sont Félix Tshisekedi, pardon, et Martin Fayulu. On peut noter aussi que des violences ont éclaté au sud Kivu. Hier soir, un policier a tiré sur des électeurs qui protestaient contre les ordres d'un chef d'un bureau de vote qui imposait de voter pour le candidat le plus proche du pouvoir. L'heure est désormais au dépouillement pour un résultat partiel qui doit être annoncé le 6 janvier prochain. Alors pour parler de cette situation compliquée, nous sommes en ligne avec Thierry Vircoulon. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales. Alors Thierry Vircoulon, plus 1 million d'électeurs privés de vote ce week-end qui ont tout de même tenu à voter lors d'élections improvisées, d'élections citoyennes, ont-ils dit. Plusieurs électeurs trouvés avec plusieurs cartes électorales, d'autres qui n'ont pas été trouvés sur les listes, des machines à voter défectueuses et des violences meurtrières qui ont éclaté dans le pays hier soir, notamment, comme je le disais, dans la région du Sud Kivu. Vers quel scénario est-ce qu'on s'achemine aujourd'hui? Est-ce que le résultat de ce scrutin ne risque pas d'être assez vite invalidé?
Invalidé par qui? On se le demande, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui, in fine, confirmera le résultat de la commission électorale, et que cette Cour est complètement dans la main du régime. Donc, le vote, comme vous le disiez hier, a été caractérisé par de nombreux dysfonctionnements et des problèmes d'organisation très importants, mais qui étaient préparés par la façon dont le processus électoral a été conduit jusqu'à présent. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de surprise. Mais il est clair que le processus électoral a été en grande partie verrouillé par le régime. Donc, comme vous le disiez, Emmanuel Shadary Ramazani hier a déclaré qu'il était le vainqueur et je pense que c'est probablement le cas, non pas parce qu'il a gagné le vote populaire, mais parce que c'est le dauphin du président.
Et alors, je le disais en introduction, Thierry Vircoulon, il y a des régions, des zones qui ont été privées d'élections, dont les élections ont été reportées en mars prochain, et pourtant un résultat partiel doit être annoncé le 6 janvier. Est-ce qu'on n'est pas en présence d'un simulacre de scrutin? Et quel rôle jouent pour le pouvoir ces deux zones-là? Parce que les raisons officielles, ce sont des raisons sécuritaires et sanitaires, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait d'autres raisons qui fait que le pouvoir ait voulu priver pour le moment ces zones de scrutin?
Si, bien sûr. Ces 4 circonscriptions représentent 1,2 million de personnes. Il est clair que l'ensemble du corps électoral est à peu près de 40 millions en RDC. Et donc le régime a décidé de faire l'impasse sur ces votes. Ça cache en effet, comme vous le dites, une manipulation, ou plutôt ça révèle une manipulation, parce que le vote aurait pu au moins être organisé dans les villes de Beni et de Butembo. Mais bon, on voit bien que le régime veut avancer et faire ses élections à tout prix, quelles que soient les circonstances, et puis avoir un résultat qui l'arrange, évidemment. Et on voit bien que les électeurs, évidemment, de ces zones-là sont déjà très mécontents et disent qu'ils ne reconnaîtront pas le résultat qui sera annoncé dans les jours qui viennent. Néanmoins, pour le régime, ça ne fera pas tellement de différence.
Et ont tenu à voter quand même, alors que leurs voix ne seront pas comptabilisées. Thierry Vircoulon, je parlais aussi en introduction de trois candidats. On parle, quand on parle de ces élections, de trois candidats qui sont donc Emmanuel Ramazani Shadary, le favori du président sortant Joseph Kabila, mais aussi Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Il y a eu en réalité 21 candidats en lice, puis 19, si je compte bien, à quelques jours de ce scrutin. Qu'est-ce qu'il manque à cette opposition? Si ce n'est déjà une union, une vraie union, parce que là, c'était vraiment des candidats des élections plus que morcelées, en fait.
Oui, enfin, c'est toujours un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 candidats, mais qu'il y en a que 3 ou 4 qui ont des chances, qui sont sérieux et qui ont des chances. Vous avez cité ceux qui sont en tête de peloton, en quelque sorte. Cette opposition s'est unie pendant 24 heures, donc c'était assez bref. Elle n'a jamais, dans les scrutins précédents, elle ne s'est jamais unie non plus. Donc là, elle est restée dans sa configuration habituelle. Mais ce qui lui manque essentiellement, c'est le fait que la commission électorale et l'ensemble de la machinerie électorale ne soit pas indépendante, ne soit pas neutre.
Soit proche du
pouvoir. C'est ça qui lui manque essentiellement.
Et à quelques heures du scrutin hier, le président sortant Joseph Kabila a prononcé son discours de vœux dans lequel il a fait allusion aux défis sécuritaires et sanitaires avec l'épidémie d'Ebola, les causes officielles donc, comme on le disait, d'un report du scrutin dans certaines zones du pays. Mais il ne parle ni des difficultés avec lesquelles ces élections se sont mises en place depuis 2 ans, donc elles ont été reportées, ni de son départ. Est-ce à dire qu'il se voit déjà aux côtés de son dauphin gagnant, lui en plus qui a dit qu'il se représenterait bien en 2023?
Oui, enfin, il se voit à côté, d'autant plus que tout a été fait pour que cette élection ne soit pas un changement, mais le prolongement de son régime. Il y a un pacte entre les deux hommes, et c'est un vrai faux président qui sera élu après scrutin. En tout cas, si c'est Ramazani Shadary qui l'emporte, puisque le président l'a déjà dit à plusieurs reprises, il va rester très présent, très actif dans les coulisses, il sera sénateur de toute façon, de fait, et de droit. Et il n'a en effet pas exclu de revenir. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il reviendra aux prochaines élections ou est-ce qu'il compte revenir même avant les prochaines élections?
Et alors, justement, quel scénario peut se dessiner par rapport à cela? Est-ce qu'on peut déjà avoir des éléments de réponse?
Oui, enfin, il y a plusieurs scénarios. Soit la possibilité pour le président Kabila de devenir président du Sénat et donc de jouer le rôle de deuxième personnage de l'État, parce que dans la constitution congolaise, le président du Sénat est le deuxième personnage de l'État. De revenir et donc de revenir lors des prochaines élections, ou alors que son dauphin qui doit être élu laisse le pouvoir à un moment, démissionne en quelque sorte, ou même qu'il soit démissionné. Mais en tout cas, le tandem, c'est une chose tout à fait inédite en Afrique, d'avoir un vrai faux président, parce que les systèmes politiques africains sont des systèmes présidentiels où la présidence concentre l'essentiel du pouvoir, et par conséquent un tandem un peu à la Poutine Medvedev, enfin, est tout à fait inédit et tout à fait inhabituel dans les systèmes politiques africains, et donc on peut se demander comment ça pourrait fonctionner réellement, et c'est pour ça que on n'est pas exclu l'idée que le président Kabila revienne même avant une prochaine élection.
Alors je voudrais qu'on parle, Thierry Vercoulon, du rôle de l'opposition. Donc je le disais, une opposition assez morcelée et qui peine à déjouer les stratégies de maintien au pouvoir du président sortant et de ses proches. Mais ces deux dernières années de glissement ont été non seulement le temps d'un gain de temps pour un pouvoir qui ne veut pas partir, mais ça a aussi été l'occasion pour une autre forme de parole et d'action politique d'émerger dans l'espace public. Je pense notamment au mouvement Lucha, qui est un mouvement plutôt jeune et qui prône l'activisme citoyen dans l'espace public, appelle les citoyens à prendre eux-mêmes leur destin en main, à ne pas écouter forcément l'Église ou les élus. Comment est-ce qu'ils ont pu peser sur ce scrutin et comment est-ce qu'ils peuvent peser sur l'avenir proche, l'avenir politique proche du pays ?
On a vu émerger dans plusieurs pays d'Afrique, en effet, ces oppositions qui sont venues de la société civile, parce qu'il y avait une vraie faillite des oppositions politiques, et en RDC, c'est le cas. Les mouvements Lucha et Filimbi, qui ont été le fer de lance de cette mobilisation citoyenne, sont maintenant relativement affaiblis, parce qu'ils ont été soumis à la répression du régime pendant les deux années. On a vu que l'Église catholique avait repris un peu le flambeau depuis la fin 2016 aussi de cette opposition citoyenne, mais elle aussi elle a été sous les feux du régime, elle est un peu divisée en tout cas. Donc en fait ces oppositions qui viennent de la société civile ont des limites aussi et ne sont pas encore capables d'agir comme des vrais mouvements politiques. On a vu aussi cette séquence se produire dans les années 90 dans un certain nombre de pays africains où aussi les mouvements de la société civile ont envahi le champ politique et finalement ont soit été récupérés, soit se sont affaiblis et ont disparu petit à petit. Donc il y a au Congo une vraie demande de changement, une vraie demande populaire, une demande très très forte. Ces mouvements l'expriment, l'Église catholique l'exprime aussi,
oui.
Mais ça, j'ai des doutes quant au fait qu'ils puissent réellement apporter un changement.
Merci beaucoup Thierry Vercoulon d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Quant à nous, on se retrouve demain, mais en attendant, on peut podcaster et réécouter cette émission sur le site franceculture.fr à la page des enjeux internationaux. Excellente fin d'année à tous à l'écoute de France Culture et à demain dans un instant les matins.